Radio Grand-Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission qui est réalisée grâce à la participation technique et musicale de Paolo Davi. Aujourd'hui, je reçois une artiste plasticienne, elle est scénariste, je l'ai rencontrée dans le Perche et elle va évoquer pour nous son travail. Emmanuel Michaud, bonjour.
Bonjour Christiane Blanc.
Alors vous avez un parcours qui m'a vraiment beaucoup intéressée parce que vous avez fait beaucoup de choses. Alors j'aimerais bien que vous évoquiez presque année par année comment ça s'est passé, parce que votre père a tenu un très grand rôle dans votre parcours, dans votre vie, et j'aimerais que vous le mettiez aussi dans notre émission parce que il a finalement beaucoup participé.
Oui, absolument. C'est vrai que sans ce lien de filiation, il n'y aurait pas le travail que j'ai produit. Mon père est aujourd'hui un homme qui a plus de 80 ans.
Ah oui, en parlez, on a l'impression qu'il est tout jeune.
Et non, oui.
Je crois qu'il a toujours été jeune pour vous.
Peut-être.
En fait, il a commencé à s'occuper de vous, de votre métier, de votre art, parce qu'il y a art, et chers auditeurs, vous allez voir en quoi consiste cet art qui est fort intéressant. Je suis vraiment heureuse de vous interviewer aujourd'hui pour ça.
Merci.
Alors dites-nous un peu justement votre père.
Eh bien, mon papa était un petit garçon triste parce qu'il a perdu sa maman très jeune, à 11 ans. Et ça a été un grand traumatisme, évidemment, pour lui, d'autant que c'est lui qui l'a découverte morte.
Ah.
Je me permets aujourd'hui ces précisions parce que ça a un grand rôle, en réalité, et dans son parcours et dans le mien.
Oui.
Parce que c'est...
On ne peut pas ne pas en parler quand on parle de vous.
Voilà.
J'ai eu cette impression en faisant votre connaissance, parce que c'est récent.
Oui, c'est vrai, tout à fait, mais c'est un plaisir aussi d'être là aujourd'hui avec vous et de pouvoir parler, échanger sur mon travail et sur ce parcours. Donc mon père, qui était très jeune au moment de ce drame, a trouvé à l'époque refuge dans les salles de cinéma. C'était les années 50.
Oui. Quelques films pour nos
amis. Ben-Hur, Cléopâtre, enfin les grands films américains. C'était la grande époque du cinéma hollywoodien.
Trois heures.
Oui. Puis les grands écrans, grands spectacles, etc., etc. Ce qui, d'ailleurs, vous le verrez, n'est absolument pas ma tasse de thé. Mais malgré tout, voilà.
Vous êtes quand même plongé dans le cinéma.
Voilà, absolument. J'ai été baptisée au cinéma à ma naissance.
Bien, oui.
Mais mon père est issu d'un milieu simple, et son père n'a pas vu spécialement d'un très bon œil son goût pour le cinéma qui lui avait fait en plus déserter l'école.
Il aurait aimé des études plus classiques pour lui.
Oui, enfin surtout, il se disait qu'il fallait qu'il ait un métier sérieux, et le cinéma ne lui semblait pas très sérieux, et donc mon père a fait...
Nous sommes dans les années...
50, 60.
60,
ouais, c'est ça, absolument, et à l'époque, on n'avait pas trop le choix, quand on était issu d'un milieu populaire, il fallait travailler, et voilà, quoi, c'est comme ça. Donc il est devenu serrurier, tout simplement. Ce goût...
À son compte.
Non, il a travaillé pour des entreprises, puis ensuite il est rentré dans les bureaux, il a eu un parcours comme dans les durant les 30 Glorieuses, où en fait, même si on n'avait pas forcément fait de grandes études, si on était un peu sérieux et qu'on travaillait bien, on pouvait grimper les échelons, et voilà. Mais sa passion du cinéma ne l'a jamais quittée. Et donc, à la fois, c'était un cinéphile averti, surtout du cinéma américain, et passionné de François Truffaut, en qui, je pense, il s'identifiait d'une certaine manière. Il a acheté dès qu'il a pu, une petite caméra amateur, et puis il a commencé à faire des petits films, comme un amateur, mais un amateur, on va dire, éclairé, parce que progressivement, il a pris ça très au sérieux. Et donc, quand il partait en voyage avec ma mère, il tournait pendant le voyage. Et après, en rentrant, il faisait un petit documentaire où il montait, il mettait du son, il mettait des commentaires, de la musique. Il avait même fait un petit logo. AM, Alain Michaud. Donc voilà, c'était très sophistiqué.
Et votre mère était aussi aimait aussi jouer les héroïnes.
Alors ma maman faisait les commentaires, c'est elle qui faisait la voix sur les films. Voilà.
Le premier film.
Alors le premier film.
Vous l'avez encore, j'imagine.
Bah en tout cas, le film qui m'a marqué enfant, c'était le film qu'il a tourné en Égypte. Donc moi j'avais 4 ans, j'ai pas pu les accompagner. Mais par contre, le film me fascinait petite parce que bon, pas forcément.
Vous parliez que de ça à la maison.
Bah c'est surtout que je c'est une culture extraordinaire et comme par hasard qui a un lien avec la mort. Très fort, puisqu'il y a cette idée d'une vie après la mort. On embaume, l'idée de garder quand même vivant dans ces tombes incroyables par la peinture, justement. Oui. Donc tout ça n'est pas finalement si loin ensuite de ce que je vais développer moi-même, enfin d'une façon totalement différente, mais en tout cas, les marqueurs sont là.
Et vous êtes seule, vous avez des frères et sœurs?
Non, je suis fille unique.
Oui, et ça se sent quand je pose la question, parce que vous aviez tout pris, quoi.
C'est
tout
ça. Tout était pour vous. C'est ça, donc c'est à la fois très, très riche, mais aussi très lourd.
Oui.
Parce que, j'ai absorbé cette passion et le
fait
que...
De tous vos pores.
Voilà, qu'il n'ait pas pu aussi la réaliser pleinement. Et donc, très vite, j'ai été un peu prédestinée à ça, à prendre le relais. Et à 11 ans, on m'a offert une caméra. Mais moi, j'ai commencé à faire des films avec... J'avais un ami d'enfance qui, lui, était danseur.
Et il avait 11 ans aussi.
Voilà, absolument. On s'est connus à l'école primaire et on se connaît, on se fréquente encore. Donc c'est vraiment une amitié d'enfance très forte. Mmh. Et j'ai fait mon premier film. Bah, j'avais 12 ans en fait dans le temps qu'on écrive le scénario, etc.
Et alors parlez-nous de ce premier film parce que
c'est pareil, il est pas neutre.
La nuit, j'imagine.
Oui, il s'intitule Sacrifice en noir et blanc. Donc vous allez me dire à 12 ans, c'est très étrange. Mais voilà, j'avais vu le film de Cocteau, La Belle et la Bête.
Ah, oui.
J'aimais les films en noir et blanc déjà
très
jeune.
Mais c'était surtout quand même des films en noir et blanc à cette époque.
Oh bah moi je suis née en 1970, donc quand même on avait atteint la couleur, mais j'aimais
les films
un peu mystérieux.
Les films, les aiment en noir et blanc d'abord.
C'est vrai qu'il y a une magie.
Voilà, il y a une magie qu'on n'a pas avec la couleur.
C'est juste.
Je sais pas, on est pris dans notre chair avec le noir et blanc, je trouve.
Oui, parce qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire, je pense que ça fait du coup du cinéma un art à part entière, dans la mesure où à la fois on est dans le mouvement, la réalité, des personnages incarnés qui parlent, etc., etc. Et en même temps, dans l'art, parce que c'est du noir et blanc, donc c'est pas le réel. Il y a une déconnexion. Et je pense que c'est ça qui est fascinant, en fait.
Oui, parce que moi, je me suis souvent posé la question, pourquoi on est plus fasciné par le noir et blanc que par la couleur, alors que la couleur, ça paraît plus vivant, plus...
Oui, mais ouais. je pense que c'est pour ça. Je l'interprète comme ça en tout cas.
Et vous aimez mieux les films en noir et blanc aussi ou bien...
C'est variable parce qu'il peut y avoir aussi un travail sur la couleur qui peut être très intéressant, comme dans la peinture, parce qu'il y a un vrai travail. Certains cinéastes travaillent vraiment la colorimétrie avec précision et en voulant nimber leur film d'une certaine atmosphère symbolique.
Et vous pensez à des metteurs en scène?
Je pense à donc oui, Visconti, typiquement, c'est quelqu'un qui avait qui travaillait énormément la couleur.
Oui, un des premiers quand même.
Premier nom, je dirais pas.
Non, mais qui a marqué quand même.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Oui.
Donc voilà, je suis née dans ce contexte qui, je ne pouvais pas trop y échapper.
Donc à 11 ans.
Voilà, à 11 ans, j'avais cette caméra et à 12, je faisais mon premier film et à 15, j'en refaisais un autre qui s'appelait Là où la réalité s'achève. Donc c'était toujours, enfin voilà, il n'y a pas de hasard, encore une fois. Après, rétrospectivement, j'ai compris pourquoi. Parce qu'au fond, au-delà de la problématique du cinéma, mon père m'avait transmis
cette passion.
Pas sa passion, mais aussi à quoi cette passion était liée, c'est-à-dire la mort de sa mère. Et quelque part, le cinéma, c'est vrai, est l'outil le plus abouti pour garder vivants les gens, puisque...
Bien sûr.
On les a non seulement, on peut avoir leurs paroles, on les a en couleur, on les a qui s'agitent, qui vivent. Et donc, il n'y a pas, c'est vraiment l'enregistrement du temps. Et donc ensuite, c'est ce qui m'a amené à la dévier de ce à quoi j'étais prédestinée. C'est-à-dire, c'était pas tant de faire des films que j'ai fait, mais de m'interroger sur qu'est-ce que c'était le cinéma. Et donc, mon travail artistique a été dans ce sens-là.
Oui, c'est-à-dire voilà. Que vous avez donné un sens à votre passion du cinéma.
Oui,
alors n'était pas forcément la même que celle de votre père,
mais complètement.
C'est ça, voilà.
C'est ça. C'est-à-dire que
je suppose qu'en s'opposant, c'était peut-être là votre but en quelque sorte de devenir vous-même.
Absolument, et d'une manière aussi pareille au départ que je n'ai pas forcément comprise. C'est-à-dire j'ai fait des études de lettres modernes à la Sorbonne, et j'ai fait un master, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire une maîtrise de lettres sur la rencontre du mouvement surréaliste et du cinéma, parce que ce qui m'intéressait dans ce sujet, c'était le rapport entre le rêve, enfin la pensée surréaliste, qui est le rapport à l'inconscient,
bien sûr,
et qui considérait au fond que le cinéma était la meilleure manière de représenter leur pensée, même si c'est pas devenu l'outil principal de leur expression principale. Mais au départ, ils pensaient véritablement, ils avaient une vraie passion pour le cinéma. Et il y a eu donc des films surréalistes qui ont essentiellement été réalisés par Buñuel et écrits par Dali. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était cette rencontre entre une pensée littéraire, plastique et le cinéma.
Et est-ce que vous avez rencontré des auteurs comme ça, Dali peut-être pas, mais des gens qui auraient côtoyé, qui auraient travaillé avec?
Non, malheureusement, parce que ça, c'est un cinéma qui a été développé vraiment au tout début du mouvement, c'est-à-dire dans les années 30. Et ensuite, il y a eu d'autres films, mais vraiment le cœur du mouvement, il est très bref en réalité. Les spécialistes considèrent qu'il n'y a eu que 3-4 films vraiment purement surréalistes. Alors après, il y a des influences, et même Buñuel ensuite dans sa carrière.
Alors citer ces films.
Alors il y a, Un chien andalou.
Oui.
Un des principaux films, c'est un chien.
Un des principaux films. Oui.
Ouais, c'est ça. C'est Un chien andalou de Buñuel. Il y a eu un film de Germaine Dulac aussi, qui était une femme cinéaste à l'époque, qu'on a oublié, mais qui a fait aussi des films très intéressants.
Mais vous les avez vus plusieurs fois, ces films-là.
Oui, dans le cadre de mon travail de recherche de maîtrise, et même à l'époque, on n'avait pas Internet, et il a fallu, pour aller voir ce film de Germaine Dulac, qui était très difficile à trouver, que j'aille dans des archives lointaines. Voilà, mais aujourd'hui, on peut les voir sur Internet, en fait. Voilà.
Bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Thank you. Je suis toujours avec Emmanuelle Michaud, une artiste plasticienne, scénariste. Nous avons déjà évoqué sa passion du cinéma. Alors maintenant, j'aimerais que vous alliez plus loin dans votre recherche, parce que vous avez fait beaucoup de recherches quand vous avez commencé à travailler.
Oui, alors j'ai travaillé très vite, en même temps que je faisais mes études, et j'ai été assistante, j'ai travaillé pour les productions du Futuroscope, ce qui m'a amenée à découvrir aussi un autre cinéma, un cinéma en grand format, circulaire, 70 mm,
alors,
3D.
Alors circulaire, ça veut dire quoi ?
360 degrés avec 9 écrans autour des spectateurs.
9 écrans.
Oui. Et donc j'ai travaillé sur un film qui a été très longtemps projeté à Romanche sur le débarquement, qui était un film totalement passionnant à faire, enfin que je n'ai pas réalisé, mais auquel j'ai participé étroitement. Et donc ça m'a amené, puisque parallèlement à mes études littéraires, j'ai fait des études de cinéma.
Vous aviez fait propédeutique en français, enfin non.
Non, pas du tout. Mais j'ai fait un double cursus en fait. L'autre cursus était à Paris 8. Et là, j'ai fait un autre master, une autre maîtrise sur l'histoire du cinéma et du format panoramique depuis la peinture circulaire. Parce qu'il faut savoir qu'au 19e siècle, c'était une façon de faire voyager les gens. On proposait dans ce qu'on appelait des panoramas. Des lieux d'exposition où on représentait des paysages étrangers, lointains, etc., pour que les gens puissent voyager, ou même des fois des terrains de guerre. C'était le côté spectaculaire. Donc j'ai écrit, enfin il y a un livre qui a été publié à ce sujet, et donc ensuite, pour faire vite, j'ai fait une formation au Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle pour avoir un travail concret, tout simplement, de scénariste.
Et ça, vous avez quel âge pour avoir ce travail ?
Là, j'ai déjà 28 ans.
Oui.
Voilà. Et comme j'avais toujours ce goût de la recherche autour du cinéma, de ses grands formats, de qu'est-ce que c'était enregistrer le temps, qu'est-ce que c'était restituer l'espace, etc., et que j'avais fait des films expérimentaux, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est des films de recherche. C'est pas des films avec justement des scénarios et des histoires, mais c'est plus une façon d'interroger le médium.
Et on peut les voir ces films-là ou c'était simplement pour vous, vos professeurs ou...
Non, ils ont été projetés. Au Festival du film sur l'art à Beaubourg à l'époque. Donc j'avais fait un film qui était un film gratté sur pellicule directement sur l'émulsion image par image. Donc c'est du dessin sur la pellicule à proprement
parler.
Et
vous avez toujours ces films-là ?
Oui, tout à fait.
Ouais, ah.
Oui. Et un autre qui était une animation de sable. Et donc suite à ça, j'avais déjà 30 ans, mais donc je travaillais comme scénariste après avoir été technicienne aux productions du Futuroscope. Et j'ai passé le concours du Frénois, qui est le Studio National d'Art Contemporain, qui se trouve à Tourcoing.
Et donc vous êtes partie à Tourcoing
Non, j'étais entre Paris seulement. Et Tourcoing. Voilà. Ouais. Et donc durant 2 ans, j'ai suivi cette formation qui est en fait une formation supérieure d'art et de recherche qui ouvre ses portes aux jeunes artistes en proposant de pouvoir réaliser des projets concrets en proposant des budgets, l'accès à du matériel. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai réalisé 2 installations, ce qu'on appelle en art contemporain, et donc qui étaient autour du cinéma.
Alors, justement. Pour nos amis qui ne connaîtraient pas les installations, quelques mots quand même.
Une installation, c'est une œuvre, j'allais dire, immersive, c'est-à-dire c'est une œuvre dans laquelle on peut rentrer d'une certaine manière, on peut visiter, on peut s'en imprégner, et voilà, c'est au lieu d'être, c'est une œuvre en 3D.
Non, il me semble.
Pardon?
C'est moins à la mode maintenant.
C'est une façon quand même très muséale de présenter l'art aujourd'hui.
Oui.
Voilà. C'est sûr que c'est difficile d'acheter une installation pour la mettre chez soi, mais par contre, dans le cadre d'un musée, oui,
voilà,
ça se pratique encore quand même beaucoup. Oui.
Et voilà. Vous en faites aussi?
Oui, absolument. Ça fait vraiment partie de mon travail aujourd'hui.
Alors,
j'aime investir des lieux
Et alors, le dernier lieu investi, quel fut-il ?
Le dernier lieu investi, c'était une galerie d'art à Paris, dans le 8e arrondissement, qui s'appelle la Galerie Boa, et où j'ai fait un travail il y a un peu plus d'un an, qui était une réflexion sur le plein et le vide.
C'est intéressant.
Oui, parce que c'est une notion aussi très, enfin, qui est liée à la peinture chinoise, mais qui, à mon sens, interroge beaucoup de choses, qui dépasse au-delà du même de l'art,
qui
parle du monde, qui parle de et donc
une fait, réflexion sur la pensée en même temps.
Oui, absolument. Qu'est-ce que c'est créer? Qu'est-ce que c'est voilà. Et c'est en fait mon parcours, c'est ça. C'est-à-dire que du cinéma, ça m'a amené à me poser des questions philosophiques assez profondes en fait, parce que ce cinéma était lié à la mort, clairement.
De toute façon, pour vous, c'est depuis le début, c'est ça.
Le début, voilà. Et donc, ça m'a amené à m'interroger sur qu'est-ce que c'était le sens de l'art, en fait, de créer, sachant que le cinéma était un peu comme un aboutissement de ce désir d'immurge humain, de vouloir garder, de vouloir refaire un monde, de vouloir...
C'est le but de l'art.
Alors, qu'est-ce que
peinture,
le but de l'art
peinture,
oui, d'une certaine manière,
c'est
oui.
Ça, quand même.
Et en même temps, justement, de travailler sur les grands formats, qu'on utilise souvent, les grands formats cinématographiques, juste d'une façon un peu spectaculaire, etc. On voit aussi la limite de ça, c'est-à-dire que juste enregistrer les choses, c'est pas très intéressant en réalité. Ou alors, ça peut être intéressant quand, je sais pas, c'est une captation comme les frères Lumière à leur sortie des usines et où on voit des gens vivants. Et là, d'un seul coup, on voyage dans le temps. Mais voilà. Et donc, tout mon travail est issu de ça. Donc, je poursuis cette veine. Et parallèlement, justement, j'avais commencé un travail de recherche à l'EHESS, une thèse que je n'ai malheureusement pas finie. Mais à un moment donné, à 32 ans, je me suis dit je devais faire des choix. Malgré tout.
Et c'était quoi
C'était interroger ce rapport à l'art et au réel.
Ouais.
Qu'est-ce que c'était le réel? Qu'est-ce que c'était l'art? Comment ils se rencontraient? Et derrière tout ça...
Vaste question.
Oui, c'est une immense question. Je prétendais pas d'ailleurs y répondre.
Non.
C'est plus une interrogation qu'autre chose. Mais elle me semble essentielle. C'est ce qui m'intéresse moi en tout cas dans l'art, et c'est là où j'aime bien rencontrer, parce que pour moi l'art est aussi un vecteur de rencontre comme nous aujourd'hui. Et j'aime beaucoup parler, pour moi ça fait partie de mon travail. J'aime énormément parler avec les gens qui viennent
voir.
Et parce que
vous voulez expliquer en quelque sorte,
c'est pas tant
faire comprendre ce que vous avez voulu dire aussi.
Oui, enfin si on me pose des questions, mais moi ce qui m'intéresse c'est la résonance intime chez les autres aussi, parce que justement je pense que c'est des questions qu'on se pose tous au fond. Le rapport à la mémoire, au passé.
Mais ça c'est l'art en quelque sorte.
Oui, alors oui, mais il y a par exemple des artistes qui vont développer un pan plus social, de dénonciation, politique, ou je sais pas. Moi, c'est pas ma veine, c'est pas ma voix.
C'est resté tel que c'était à l'origine, pour dire.
Oui, enfin en tout cas, je l'ai transcendé, c'est-à-dire de quelque chose d'assez douloureux qui a imprégné notre histoire. J'ai essayé, en tout cas j'en ai fait une œuvre quelque part que je partage avec les autres, parce qu'on a tous au fond le drame de la mort nous concerne tous, le rapport à la vie et à la beauté, moi aussi c'est quelque chose qui compte beaucoup dans mon travail, c'est-à-dire je fais partie des artistes qui restent encore attachés au beau.
Un beau normal, je voulais dire, c'est ça, parce que vous avez l'air de... Enfin, il y a effectivement l'esthétique, ça peut être vu de différentes façons.
Oui, c'est le beau. Comme Kant disait, un coucher de soleil, personne pourra dire que ce n'est pas beau. Voilà. Et de fait,
je pense que ça serait très difficile. On peut y être plus ou moins sensible.
Plus ou moins sensible, mais enfin, bon, très sincèrement, si on met quelqu'un devant un coucher de soleil, je pense que c'est rare la personne qui va dire « non, c'est moche ». Donc, ce sens-là la beauté…
On peut être plus ou moins touché quand même.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce sens-là d'une beauté assez évidente, voilà. C'est une façon aussi, je trouve, d'entrer dans les œuvres. Après qu'il y ait un questionnement derrière, on peut être plus ou moins sensible à ce questionnement. Mais déjà, qui est le premier voyage à travers quelque chose qui fait plaisir aussi, c'est, pour moi, c'est important.
Et est-ce que vous écrivez aussi, ou il n'y a que le film
Non, j'écris de la poésie.
Ah oui, c'est ça.
J'écris un journal dont j'ai publié une partie il y a quelques années, puisque j'avais fait une exposition assez aussi immersive et grande dans un... Alors là, parce que j'ai une partie de ma vie qui est à Genève, donc dans un manoir à côté de Genève, à Coligny, sur 2 étages.
Oui.
Et voilà, et où effectivement je mettais en dialogue mon travail plastique avec l'écriture, une partie de l'écriture de ma vie, quoi.
Et là maintenant, où vous en êtes alors ? Parce que c'est intéressant aussi de voir, parce que vous avez maintenant assumé votre production, votre création. Et maintenant, est-ce que vous êtes à un point où vous dites maintenant c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'aime, je ne veux faire que ça, ou au contraire ? C'est ça que j'aimerais comprendre.
Je pense que la recherche fait intrinsèquement partie de moi aussi. C'est-à-dire, j'aime bien explorer. Donc, je continue. C'est un chemin, en fait. C'est comme ça. La vie. Et mon travail artistique, c'est moi.
Et en ce moment, où vous êtes alors ? À quelle croisée des chemins ?
Eh bien, en ce moment, je réfléchis à la gigantomachie, c'est-à-dire en fait le combat, entre guillemets, entre, j'ai entendu ça et j'ai trouvé ça très beau, entre la pierre, c'est-à-dire l'art, qu'est-ce qu'on peut en faire, on peut la transcender en faisant une sculpture ou pas, enfin voilà, et la nature, et l'arbre. Donc la gigantomachie, j'ai beaucoup aimé cette phrase, la gigantomachie entre la pierre et l'arbre, parce que c'est... vous comprenez aussi, c'est toujours en lien avec ce que je recherche, mais c'est aussi un questionnement très contemporain au fond, qui. Mais qu'est-ce qu'on, voilà, cette rencontre en fait entre la nature telle qu'elle est, brute, et nous, ce qu'on peut en faire, mais artistiquement.
Mais je crois que justement, en ce moment, c'est tout à fait ça, parce qu'on essaie que les villes deviennent moins gigantesques et qu'on voit moins la pierre et plus la nature. Ce combat. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr.
Merci, Christiane.
Merci à vous.
Au revoir.